14h03 sur Inter, voici La Tête au Carré. C'est à vous Mathieu Vidard.
Merci, je prends la main. Gabriel Perra, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
15h.
La Tête. La Tête. Oh, oh, oh. Carré. Carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans La Tête au Carré. Violaine Ballet est aux commandes de l'émission dont voici tout de suite le sommaire avec un dossier qui s'intéresse aujourd'hui à l'épuisement professionnel qu'on appelle également le burn-out, un syndrome de stress chronique qui entraîne un effondrement soudain des personnes surinvesties dans leur travail. Quelles sont les racines de ce problème qui semble frapper de plus en plus de travailleurs? Quels sont les premiers signaux d'alerte? Et à quel moment faut-il aider ces personnes? On en parle avec mes deux invités, Marie Peset et Pascal Chabot, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Marie Peset, vous êtes docteur en psychologie, expert judiciaire. Vous êtes responsable du réseau de consultation Souffrance et Travail que vous avez créé en 1997, ainsi que le CES de psychopathologie du travail au CNAM. Et vous avez publié plusieurs ouvrages sur la souffrance au travail aux éditions Pearson. Pascal Chabot, vous êtes philosophe et professeur à l'Institut des hautes études des communications sociales de Bruxelles. Et vous publiez Global Burnout aux presses universitaires de France. Vous allez nous dire justement quel regard la philosophie peut porter sur ce syndrome que vous comparez à une maladie de civilisation. On va se retrouver donc dans un instant. Déjà beaucoup de courriels des auditeurs, des témoignages que je vais vous transmettre tout au long de l'émission. Et pour les messages, et bien sûr, vous nous rejoignez sur franceinter.fr. La science infuse, la chronique d'Anne-Cécile Perrin, c'est dans la deuxième partie de La Tête au Carré. Anne-Cécile a mis cette semaine au défi l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet de nous expliquer la gravitation en moins de 2 minutes. Et puis on termine avec la revue de presse en compagnie de Sophie Bécherel et Giovanni Occhipinti. Voilà pour le sommaire de cette Tête au Carré préparée par Chantal Lemontagnier et Hugo Struna.
La Tête au Carré, Mathieu Vidard.
Le magazine scientifique de France Inter.
De France Inter.
Où que j'aille, souvent j'entends battre le cœur de ceux qui m'ont aimé. Et sont partis ailleurs de ceux qui m'ont donné les belles années de mon enfance. Je reviendrai auprès des amis et des rires, des racines et des souvenirs. Je reviendrai auprès des amis et des rires, des racines et des souvenirs. Quand j'aurai traversé tous les horizons, voyagé sur des terres si loin de ma maison, vu les plages infinies et les vagues à l'âme de l'errance, je reviendrai amis et des rires, des racines et des souvenirs. Je reviendrai auprès des amis et des rires, des racines et des souvenirs. Quand j'aurai visité les monts et les merveilles, senti toutes les ondes chaudes du soleil, vu les neiges éternelles et les déserts peuplés de souffrances. Qui m'ont aimé et m'ont rendu meilleur, de ceux qui m'ont aidé à garder toutes mes espérances. je reviendrai auprès des amis et des rires, des racines et des souvenirs.
Je reviendrai, c'est Alexis HK.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. La tête.
L'épuisement au travail également, appelé burn-out, c'est donc le dossier cet après-midi de l'émission avec mes invités. Marie Peset, psychologue clinicienne, responsable du réseau de consultation souffrance et travail. Et puis Pascal Chabot, philosophe et professeur à l'Institut des hautes études des communications sociales de Bruxelles. Vous êtes l'auteur de ce livre Global Burn-out aux presses universitaires de France. Vous nous rejoignez avec vos témoignages, vos questions sur le site de l'émission sur franceinter.fr. Et pour commencer, pour illustrer ce sujet, voici un extrait d'un film qui s'appelle Detachment de Tony Kaye qui est sorti en 2011. On y entend une conseillère d'orientation d'un lycée difficile de la banlieue new-yorkaise qui craque.
J'ai ton bulletin des deux derniers trimestres sous les yeux et je lis F, 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 F.
F, 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 ouais.
Ça veut simplement dire que tu t'en fiches.
Vous m'épatez. Je peux y aller, c'est bon?
Tu n'es qu'une petite conne répugnante et superficielle. Je vais te le dire, moi, ton futur. Sans diplôme ni qualification, tu seras comme 80% des Américains. Tu auras un job de merde sous-payé que tu te coltineras toute ta vie. Jusqu'au jour où on te remplacera par un ordinateur.
Ouais, et alors?
Ton seul talent sera de te faire sauter par des mecs qui en auront rien à foutre. Ta vie ne sera qu'un festival de souffrance. Chaque matin, je m'assois derrière ce putain de bureau et je vous écoute me dire que vous en avez rien à foutre de rien. C'est si facile d'être insensible. Il faut du courage et des crans pour vouloir s'en sortir. Dehors! Je veux plus te voir, t'entends, dehors!
Allez vous faire foutre!
Je suis à bout, j'en peux plus.
Non, c'est faux.
Si.
Je me demande même comment vous tenez toute la journée. Vous êtes la meilleure. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Ce qu'il y a de pire dans ce boulot de merde, c'est que personne ne nous dit merci.
Non.
Non. Eh bien, moi, je suis là pour vous dire merci de faire le boulot qu'aucun de nous ne peut faire. Aucun de nous. Vous êtes génial.
Voilà, Detachment avec cette conseillère d'orientation. Nous parlons de l'épuisement au travail, également appelé burn-out. Donc, c'est le sujet de cette tête au carré. Pascal Chabot, Marie Peset, vous avez évidemment tous les deux vu ce film qui vous semble bien illustrer justement ce thème de l'épuisement au travail. C'est un traitement évidemment anglo-saxon, hein, mais tout le monde s'y retrouve, je crois. Hein.
Je crois que vous avez particulièrement bien choisi l'extrait parce qu'on voit s'affronter les deux postures éthiques de deux générations différentes. J'ai envie de dire la génération pour laquelle le travail est fondamental, central dans la construction identitaire et dans le plaisir qu'on a à aider les autres. Et puis la génération qui a décidé, pour se protéger, de se désengager absolument complètement du rapport au travail. C'est un mécanisme de défense qu'on rencontre actuellement, ouais. Qui monte et qu'on ne peut pas critiquer parce que comment vouloir à des jeunes de décider de se mettre à distance d'un investissement du travail qui va les brûler physiquement, psychologiquement et comme il est très bien dit, sans aucune reconnaissance, ouais. Et sans aucun merci pour ceux qui est investi dans le travail.
Pascal Chabot, un mot sur l'extrait de ce film. C'est vrai qu'il y a la valeur travail qui vole en éclats, là, on le voit bien.
Elle vole tout à fait en éclats. C'est dans un lycée new-yorkais que se déroule l'intrigue. C'est à New York aussi, il y a sans doute quelques rues de là, que la notion burn-out a été thématisée pour la première fois dans un contexte assez similaire, puisqu'il s'agissait aussi d'un contexte d'aide. Ici, c'est une conseillère dans un lycée et c'est Freudenberger qui aidait lui aussi.
Qui était-il hein
un psychiatre d'origine autrichienne. Qui travaillait aux États-Unis. Il était responsable d'une free clinic qui accueillait donc des toxicomanes pour essayer de les aider. Et il travaillait en soirée après sa consultation ordinaire. Et après deux, trois ans à ce rythme-là, en travaillant de 21h à 2-3h du matin chaque soir, il s'est un jour senti épuisé, déprimé, incapable de se lever, tout simplement. C'est le corps qui parle quand le psychisme, lui, essaye d'aller toujours toujours, toujours plus loin. Et comme il avait été formé à la psychanalyse, et c'est une chose intéressante, il s'est enregistré. Il s'est enregistré et puis il s'est auto-analysé finalement. Ouais. Et il a entendu d'abord un changement dans sa voix, du cynisme, de l'autodépréciation, un sentiment de culpabilité aussi par rapport à ses proches qu'il ne pouvait plus assez aider. Il a thématisé alors son propre état d'épuisement en utilisant un mot qu'il entendait dans sa free clinic, puisque les drogués pouvaient aussi dire d'eux-mêmes « je suis burn-out, peut-être cramé », dirait-on en français. C'est ça, ouais. Et ses collègues se sont retrouvés dans la notion qui a très vite été reprise et utilisée.
Ouais, Marie Peset, c'est une expérience, un témoignage qui doit vous toucher quand même, ça.
Bien sûr, parce qu'on traverse tous ces périodes de désespérance lorsque le corps s'écroule, car il faut dire que dans le burn-out, l'individu qui travaille trop et qui est capturé par une organisation du travail qui n'en a jamais assez et qui se donne à fond parce qu'il faut bien que le travail se fasse dans cette posture éthique de tenir un peu le monde tous les jours, celui qui s'engage comme ça la tête dans le guidon finit par ne plus pouvoir réfléchir. Et c'est important de dire aux auditeurs que du coup, ce qui craque d'abord, c'est généralement l'organisme. Bon, moi, ça a été une paralysie du bras droit. Pour d'autres personnes, ça peut être des symptômes beaucoup plus graves qui engagent le pronostic vital. Il ne faut pas oublier le lien entre burn-out et karoshi, mort subite au travail. Et entre burn-out et ce que nous appelons dans nos consultations les suicides blancs. Et ça, depuis 5 ans, depuis que ce syndrome est montant dans nos consultations, oui. Nous avons de plus en plus de salariés qui arrivent et qui disent « moi, je veux dormir, je n'y arrive pas, malgré les somnifères, les traitements qu'on me donne. Je ne peux plus arrêter le mécanisme qui s'est mis en route. Et pour dormir, je vais me tuer. Donc, je ne vais pas me tuer parce que je n'aime pas la vie. Je vais me tuer pour dormir.
Ouais, » on entend d'ailleurs la comédienne, la conseillère d'orientation dire « j'en peux plus. » Ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre aussi de la part des personnes qui expriment cette phrase.
Alors, il faudrait arriver à l'entendre avec tout ce que cette phrase très ordinaire contient, là, pour le coup, de dramaturgie, d'acmé, de l'implosion qui va avoir lieu. Nous avons de plus en plus de crises psychiques aiguës dans nos consultations parce que les gens y viennent pour, comme ils le disent, péter les plombs. Et dire si je dois y retourner demain, je me tue ou je les tue, mais je n'en peux plus, ne me laissez pas y retourner. Ouais. Donc attention à l'environnement que les collègues, les N+1, la ligne hiérarchique, malheureusement, elle aussi souvent au burn-out, soit attentive à ces symptômes.
Pascal Chabot.
Il faut dire que la fatigue, évidemment, est consubstantielle à l'activité humaine. La fatigue exprime le fait que notre corps a besoin de repos. Donc la fatigue a toujours existé. Mais ici, dans ce cadre professionnel, on trouve un autre type d'expression de la fatigue qui va vraiment jusqu'à l'épuisement et qui touche des personnes qui sont tout le contraire de gens ordinairement fatigués ou fainéants ou tire au flanc. Ce sont au contraire les plus zélés, les plus investis, souvent les plus idéalistes, parfois les plus perfectionnistes. Et c'est parfois aussi ce perfectionnisme-là qui devient pour eux un handicap et qui alors prend le dessus. Donc c'est ça qui est tout à fait particulier dans cette fatigue-là, c'est que c'est la fatigue des zélateurs les plus investis du système.
Alors c'est vrai qu'on était très heureux de pouvoir vous recevoir tous les deux ensemble parce qu'on a la partie clinique avec vous, Marie Peset, et puis l'angle philosophique que vous traitez, Pascal Chabot. Qu'est-ce que la philosophie justement peut nous dire de ce burn-out, de ce syndrome d'épuisement?
Il m'a semblé que la tâche de la philosophie, en l'occurrence, était de montrer le lien entre une pathologie qui affecte des psychismes et une civilisation qui peut engendrer cet excès, ce trop. Pour moi, le burn-out est clairement une pathologie de civilisation. Elle est une pathologie de notre civilisation qui, par le système technocapitaliste qui la génère et qui génère certains des plus grands bienfaits que nous devons à notre civilisation, fait aussi peser sur les individus, sur leur corps, peut-être davantage sur leur mentalité encore, des contraintes qui sont tout à fait excessives. J'ai essayé de voir que le burn-out était un trouble miroir, un trouble qui est miroir de ce qui se passe aujourd'hui, de la même manière finalement que le spleen était un trouble miroir de la première révolution industrielle, que la neurasthénie thématisée chez Proust, thématisée chez Virginia Woolf aussi, était un état d'abattement par rapport à un monde qui était en train vraiment de changer et un romantisme qui devenait impossible. Pour moi, le burn-out est la manière de dire ce qui aujourd'hui est excessif dans notre monde et est aussi la manière de dire finalement qu'il y a là...
Tout ça sur ces questions donc de progrès, de technologie qui vous intéresse dans votre travail de philosophe. Marie Peset, pour compléter là-dessus.
Moi, je pense que nous les classons dans les pathologies de surcharge et nous nous attachons, dans la suite de Françoise Cironi, à évoquer des psychopathologies de violences collectives, car les violences qui sont faites dans ces organisations du travail très spécifiques sont faites au corps, au fonctionnement cognitif, sont faites aussi à l'investissement tout à fait normal que chacun d'entre nous fait de son travail et de sa place dans le champ social. Ces organisations du travail...
Qui sont aujourd'hui pathologiques. Hein.
Sont pathogènes, ouais. Complètement, et font un travail d'orfèvre dans la recherche de la capture de la subjectivité du salarié, pour lui dire d'ailleurs, le jour dit, mais je n'en peux plus, je n'arrive pas à atteindre les objectifs que vous me fixez, pour lui dire... Mais attendez, à vous de tracer vos hiérarchies, à vous de savoir quoi faire en premier. On ne vous a pas demandé d'en faire autant. Et vous imaginez dans quelle détresse se trouve alors le salarié qui n'en peut plus, qui est au bord de l'implosion cardiovasculaire, lorsqu'il entend « on ne vous a pas demandé d'en faire autant ».
En tout cas, vous publiez « Travailler à armes égales » aux éditions Pearson, « Souffrance au travail, comment réagir ?» C'est la suite de toute votre réflexion, justement, sur cette question, puisque vous l'aviez déjà entamée il y a quelques années avec d'autres ouvrages comme « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés ». On entendra d'ailleurs un extrait d'un film directement inspiré de vos travaux. Alors, il y a beaucoup de questions des auditeurs, donc je vous les transmets tout de suite parce que je sais que ça vous intéresse aussi de pouvoir y répondre. Odile demande si le burn-out peut être considéré comme la forme moderne et laïque de l'acédie. Qui veut répondre là-dessus?
Hésiter tout de même, mais assez courant dans le vocabulaire des théologiens du Moyen-Âge, désignait une paresse, mais qui était une paresse immense qui pouvait s'emparer du moine et des plus zélés parmi les moines, de ceux qui ne reculaient pas devant une prière supplémentaire, un jeûne excessif de plus, et qui parfois alors ne pouvaient plus simplement se lever pour prier. Et l'Église a été particulièrement attentive au Moyen-Âge, particulièrement virulente aussi pour condamner cette acidité, ce corps qui devenait froid, puisque l'acide était considéré comme un corps froid au Moyen-Âge, et il est froid dans un système religieux qui est celui de la ferveur, tandis que notre burn-out est un incendie, étymologiquement. Burn-out, c'est vraiment être cramé, un incendie, dans un système technocapitaliste qui, par ailleurs, est un système qu'on représente plus par la froideur, justement. Et donc, cet acédie a été combattu, finalement, par beaucoup de théologiens, parce qu'elle menait simplement à une perte de foi dans le système ecclésiastique et dans l'objet de toutes ces prières qui est Dieu. Donc, il y a un parallèle à
c'est
faire.
Ça. Il y a bien une perte de foi aussi dans ces valeurs qu'on a évoquées il y a un instant, Marie Peset, autour du travail, par
Tout
exemple,
fait.
Et de l'argent.
Bien sûr. Le symptôme majeur, finalement, du burn-out, c'est l'apparition chez des gens que nous qualifions de salariés sentinelles, comme étant, au fond, dans le corps social que représente une entreprise, les premiers à décompenser, comme on dit dans notre jargon, et que finalement la hiérarchie et le chef d'entreprise doivent considérer comme la partie apparente de l'iceberg, très significative de ce qui va advenir dans le reste de ce corps social. Ces salariés sentinelles deviennent tout d'un coup des gens dont le cynisme apparent, le détachement émotionnel vis-à-vis de la qualité du travail à accomplir est l'exact contraire de ce qui était leur engagement zélé dans l'exécution du travail. Donc, quelle perte pour la société, quelle perte pour l'entreprise que de laisser se consumer dans cette société productiviste les meilleurs éléments de l'entreprise, tandis que ceux qui savent passer entre les gouttes, finalement, pas trop investis, de nos jours, se débrouillent beaucoup mieux.
Pascal Chabot, vous citez justement Freidenberger, hein, il parle de la maladie du bon américain. Et pour reprendre justement le parallèle avec les moines, il y a une espèce de crise de foi, on le disait tout à l'heure, et vous dites que le burn-out génère les nouveaux athées du technocapitalisme.
Je pense en effet qu'il est difficile, après un épisode comme celui-là, de burn-out, d'adhérer encore à un idéal qui est un idéal de toujours plus d'activité, toujours plus d'argent également, toujours plus d'adhésion à une société à qui finalement on vend son temps, puisque le temps est central dans toutes ces affections, et on vend son temps en n'ayant peut-être pas assez de reconnaissance. Parce qu'au fond de cette réflexion, il y a la volonté de défendre le travail. C'est clairement le travail qu'il faut défendre. C'est le travail qu'il faut défendre, mais c'est-à-dire c'est le travail dans la dimension de réalisation de soi que le travail peut générer. Et dans ces cas-là, la réalisation de soi, finalement, n'est pas au rendez-vous. On est très souvent dans l'adaptation tous nous devons nous adapter, l'humain est l'être plastique par excellence qui s'adapte à des nouvelles situations, mais les technologies aidant, l'adaptation est toujours plus rapide, plus nécessaire, et on voit des gens qui s'adaptent, mais qui ne se réalisent plus, alors que l'humain ne s'adapte que pour se réaliser. L'adaptation est un moyen, la réalisation de soi est une fin, et c'est quand cette réalisation de soi n'est plus au rendez-vous que l'adaptation devient absurde et frustrante, et qu'on peut alors légitimement se demander, tiens, mais à quoi bon tout cela? Pourquoi tout cela?
Guillaume nous envoie ce message. Il m'est arrivé d'avoir des périodes de travail si intenses et stressantes que j'avais mal jusque dans mes os. Les signes physiques et ou psychologiques d'un burn-out sur le point de se produire sont-ils les mêmes pour tous? Marie Pesé, c'est
alors,
la question de Guillaume.
La question de Guillaume, elle est extrêmement précieuse parce qu'il faut que ceux qui travaillent beaucoup, qui s'investissent, qui sont capturés par l'organisation du travail intensive, avec une densification des tâches, un fonctionnement, un management par le stress, par le TTU, comme on dit, le très très urgent, le management par le coût aussi, la rentabilité, les reporting, la restructuration à la hache qui est fait maintenant désormais un petit peu partout, ces réformes perpétuelles tous les 3 mois auxquelles sont soumis les salariés, finalement dans des efforts un peu fous de s'adapter à une organisation qui va disparaître 3 mois plus tard. Et surtout avec en face d'eux, j'ai envie de dire, le déni collectif de l'encadrement, souvent dans une posture héroïque, il faut atteindre les objectifs fixés par la direction. Et donc cet encadrement va dénier les premiers symptômes qui apparaissent. Les premiers symptômes qui apparaissent, ils sont souvent ceux qu'on trouve dans d'autres tableaux. Il va y avoir l'irritabilité, les accès de colère comme ça pour un oui, pour un non, une rigidité, une radicalisation de la manière de faire, parce qu'on n'en peut plus, donc on devient difficile. Il va y avoir les maux de tête, les maux d'estomac, les maux gynécologiques, les troubles musculo-squelettiques, puisque c'est ce dont parle cet auditeur. Et puis, il va y avoir ce vécu d'usure, d'échec de plus en plus important, ce vécu d'impuissance qui va commencer à augmenter en puissance dans une organisation du travail qui ne donne pas les moyens, pas les effectifs et surtout pas le temps. Et je pense que ce qui tue le salarié, c'est la perte des marges de manœuvre temporelles, même pas les 2 ou 3 secondes, les 2 ou 3 minutes qui permettent de faire face au travail réel, à ce qui surgit tous les jours. Parce que la tâche prescrite, elle est bien gentille, sur la fiche de poste, dans les procédures, on vous dit qu'il faut faire comme ça. Mais nous savons bien que rien ne se présente jamais comme ce qui est écrit sur les procédures. Et donc le salarié doit se coltiner le travail réel, ce qui arrive dans la vraie vie. Celui qui travaille ne peut pas se dérober à l'urgence de la rencontre avec le réel du travail. Et ça, souvent, il le fait dans la plus affreuse des solitudes, parce que l'encadrement ne veut pas entendre parler de difficultés, ne les fait pas remonter, et lui dit « tu dois y arriver ». Mais je n'y arrive plus, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les effectifs, je n'ai pas les moyens. Tu dois y arriver, on ne veut pas le savoir. Ce déni du réel du travail tel qu'il se présente est un déni du principe de réalité, est un déni qui peut déclencher des situations d'aliénation mentale chez le salarié, hein, qui tente, lui, de tenir le rapport au monde.
Alors Jérôme demande justement si le burn-out est nécessairement professionnel, s'il y a des burn-out liés à d'autres contextes et en quoi il se distingue des symptômes classiques de la dépression.
Oui, c'est une double question. J'y viens à partir de la question du temps, puisque effectivement, le temps est central dans nos psychismes, bien sûr, et on a l'impression dans ces organisations pathogènes-là que le temps est devenu uniquement une grille dans laquelle il faut toujours correspondre. Il n'y a plus de temps vécu.
Oui, l'heure est partout. Hein,
l'heure est partout, le temps nulle part, finalement, et la durée, le sentiment de durée n'est pas là. Alors, effectivement, ça peut se passer dans un contexte professionnel, mais par rapport au temps, on peut aussi penser à une mère de famille qui par ailleurs veut accorder du temps à ses enfants et qui a l'impression de ne plus avoir le temps de courir toujours après le temps, alors que si elle a engendré des enfants, c'est souvent pour partager avec eux un temps de vie. Donc au début, la notion de burn-out était vraiment réservée aux professions d'aide, aux professions idéalistes, aux professions soignantes, et profession de l'éducation, c'était le cas chez Freudenberger. Petit à petit, la notion a connu une extension vers les cadres, par exemple. Et puis, on a parlé d'un type de burn-out chez les jeunes mamans, par exemple, également chez des écoliers, chez des étudiants. Donc, la notion qui est une notion de civilisation, qui est une notion du trop, et qui est une notion qui doit nous faire aller vers une décélération.
Oui, il y a cette idée de travail sans fin, hein, vous l'écrivez dans votre livre, mais c'est ça au fond, c'est que les choses ne s'arrêtent jamais, qu'on en demande toujours plus, il y a quelque chose de tout à fait insupportable et de vertigineux.
Oui, le salarié est en situation de faute prescrite, parce que comme les objectifs qu'on lui fixe sont inatteignables et qu'il n'a ni les moyens ni le temps de les atteindre, il démarre ses journées en situation de faute prescrite. Comme il ne remet pas le postulat de base en cause, il n'arrivera jamais à atteindre les objectifs. C'est tout à fait kafkaïen. Oui. Et donc, le salarié évolue dans une temporalité circulaire, un peu comme ces parkings où on ne retrouve jamais sa voiture parce qu'ils sont en coquille et qu'on passe son temps à tourner sans jamais trouver le bon niveau où on a rangé sa voiture. Là, c'est où on a rangé son corps ou son âme. C'est extrêmement délétère et ça transforme le fonctionnement humain, ça le ramène vraiment au rythme neurophysiologique, à la production de cortisol, à la manière dont on va visser 27 bouchons par minute et donc user une articulation.
Oui. Il y a une négation du corps, hein, totale.
Jamais on a atteint dans le monde du travail une telle absence de théorie du travail. Le travail est réduit à des temps. Et les temps à des mouvements. Et dans cette affaire-là, ce sont des robots qu'il faut acheter, mais ce ne sont pas des êtres humains qu'il faut faire travailler.
Il y a une fascination pour la machine, effectivement. Il y a un mimétisme, puisque le travailleur parfait, c'est une machine, finalement. Oui. Et on demande à beaucoup de personnes de se rapprocher de cet idéal machinique, sans état d'âme, sans conscience, sans désir non plus.
Machine qui était quand même là pour libérer les hommes,
mais
au départ.
Mais c'est ça, le tout grand paradoxe de notre société, c'est que nous vivons encore dans l'annonce, je dirais presque l'annonce publicitaire de la civilisation du loisir. Faites entrer les machines dans vos vies et les machines vous libéreront du temps et vous aurez des loisirs, vous irez sur les plages. Mmh. Et finalement, on s'est bien rendu compte que ces machines censées nous libérer nous ont demandé beaucoup plus de temps à cause de la façon dont elles sont utilisées. Parce que ce n'est pas le progrès technique lui-même qui est en cause. Il n'y a pas de technophobie derrière ces constats, mais il y a le soupçon qu'on a demandé aux machines d'être les moyens d'un rendement toujours supplémentaire qui n'est pas tout à fait nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a pour moi deux types de progrès. Il ne faut pas jouer un progrès contre une régression. Il y a un progrès qui est un progrès utile en capitalisation, qui est un progrès linéaire. Le progrès progrès vraiment du 19e siècle qui est toujours dominant aujourd'hui. Et puis à côté, il y a le progrès qu'on doit sauver, auquel on doit travailler, qui est un progrès subtil, qui est le progrès qui touche l'humain, car l'éducation, qu'est-ce d'autre qu'une façon de faire progresser l'humain? Donc il y a du progrès dans l'humain, mais c'est un progrès qui est toujours cyclique, où on revient toujours et où on est finalement en prise avec la fragilité de l'humain. C'est ce progrès-là, finalement, que beaucoup de travailleurs, je pense, demanderaient à voir revalorisé. Et c'est pourquoi le discours sur le burn-out n'est pas uniquement un discours pessimiste, c'est un discours qui demande un rééquilibrage.
En tout cas, Marie Pesé, Pascal Chabot, si on en juge par le nombre de messages qui arrivent sur le site de la Tête au Carré, les commentaires que s'envoient les auditeurs entre eux, toujours sur franceinter.fr, on voit que le sujet est totalement concernant. Évidemment, il y a ce réseau Souffrance et Travail que vous avez créé, Marie Pesé, avec un site internet aussi qui est là pour aider les personnes qui en ont besoin. Il existe 35 consultations maintenant en France.
Consultations Souffrance et Travail, 50 consultations de pathologie professionnelle, une dans chaque grand CHU. Vous avez ces listes sur le site, bien évidemment. Et puis, comment y avoir accès, quoi faire en cas de burn-out. Et je renvoie aux chroniques de Bettina qui permettront aux auditeurs qui se demandent s'ils font un burn-out de se reconnaître.
Voilà, il y a des signes qui sont là pour aider les personnes en allant sur le site souffrance-et-travail.com. Il est en lien, évidemment, sur la Tête au Carré. On va entendre un extrait d'un film qui s'appelle « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés », directement inspiré de votre travail, Marie Pesé, film de Marc-Antoine Roudil et Sophie Bruneau en 2006, un documentaire dans lequel on voyait des personnes raconter leur souffrance au travail dans le cadre d'un entretien.
Eh ben, je suis rentré en décembre, époque de fixation des objectifs, je suis rentré en dépression parce que je ne voyais pas comment faire de tels chiffres sur un secteur aussi difficile, ça ne me paraissait pas du tout jouable.
Alors, quels ont été les premiers signes cliniques que vous avez... Comment est-ce que vous avez...
Ah bah, j'ai craqué.
Alors, dites-moi.
J'ai chialé,
boulot, à la maison?
Au boulot.
Crise de larmes.
Au boulot, je me suis fait d'une bonne crise. J'ai vraiment... J'ai passé à péter les plombs, j'ai vraiment craqué. Je suis rentré chez moi, bon,
et
c'est
devant
tout.
Votre équipe.
Ah oui, c'était humaine, naturelle, je dirais.
Donc, vous leur avez dit, je ne peux plus faire?
Non, je n'ai rien dit. Je suis parti.
D'accord, vous êtes mis à pleurer au boulot et vous êtes rentré chez vous. Et là, vous avez été arrêté apparemment.
Alors, j'ai été arrêté un paquet de temps, en décembre, en janvier, et puis je suis toujours en arrêt de travail.
Ah d'accord, toujours en arrêt.
Marie Pesé, comment travaille le clinicien justement avec un patient comme ce monsieur qu'on entendait il y a un instant, face à cette violence sociale qu'il exprime?
Les consultations souffrance et travail sont très longues. Nous pouvons garder un patient 2 ou 3 heures parce qu'il faut obtenir dès la première consultation, au décours d'une analyse très fine de ce qui s'est passé dans l'entreprise, des modifications de l'organisation et du poste du salarié, il faut obtenir que cet homme, que cette femme décolle son histoire personnelle de l'histoire de l'organisation du travail dans l'entreprise. Il faut qu'à un moment donné, il ait cette catharsis, cette abréaction, cette compréhension qu'il a été l'objet de techniques de management pathogènes spécifiques et qu'il n'est en rien coupable ni responsable de la décompensation qui s'est opérée en lui, qu'elle est spécifique, que nous la classifions dans les pathologies de surcharge et que, ayant fait l'analyse des effets retors de cette organisation du travail et de ce qu'il y investissait avec bonne foi, loyauté, enthousiasme, courage, il va devoir, pour se protéger désormais, remanier son rapport au travail avec beaucoup plus de prudence. Cette catharsis, elle est importante à obtenir dès la première fois parce qu'ensuite, elle permet de travailler les deux plans. Oui, il y a toujours un lien avec l'histoire individuelle, personnelle, mais il y a aussi la nécessaire compréhension par le salarié français de ce dont il a été la proie et de ce vers quoi il va devoir retourner en salarié plus averti de ses droits, des pathologies spécifiques liées au travail et puis des acteurs dans l'entreprise qu'il faudra qu'il aille voir plus précocement qu'il ne connaissait pas jusque-là, auxquels il n'osait pas aller raconter ce qu'il se passait parce qu'il en était rendu à se dire qu'il n'était pas à la hauteur. D'ailleurs, vous entendez bien dans la voix de ce chef de service, ben voilà, je me suis mise à pleurer, vous vous rendez compte, là, honte pour un homme de se mettre à pleurer.
Alors justement, il y a ce message de Rose, elle nous dit ceci, j'interviens en conseil en entreprise sur les risques psychosociaux. Souvent, les entreprises renvoient les salariés victimes de burn-out à leur responsabilité personnelle. Il faut, dit Rose, à tout prix redire que c'est l'entreprise qui fixe les règles, donc c'est l'entreprise qui doit mettre en place la prévention. Pascal Chabot.
Oui, bien sûr. L'important est de déculpabiliser. D'abord, l'important est effectivement de faire en sorte que le déni qu'on peut rencontrer dans beaucoup d'organisations professionnelles ne soit plus permis, puisque ce déni, finalement, oublie que l'individu, très souvent, obéit à des injonctions qui peuvent être contradictoires et que l'individu aussi est en recherche d'un type de reconnaissance, finalement. Il y a dans tout travail une recherche de reconnaissance au-delà de la recherche d'un salaire, qui est une des motivations premières. Et c'est cette reconnaissance-là qui fait très souvent défaut. La personne qui dit « je n'en peux plus », c'est aussi une personne qui aimerait peut-être simplement qu'on reconnaisse que la tâche est extrêmement difficile, et non seulement qu'on l'allège, mais que la parole vienne, que la parole humaine finalement vienne. Et très souvent, les organisations... Qui peuvent s'améliorer par rapport à cela, mais n'ont pas de parole, elles ont des ordres.
Marie Pesé.
Alors, il est important de rappeler que le chef d'entreprise a une obligation de préserver la santé physique et mentale de ses salariés. C'est une loi précise. Je ne vais pas vous encombrer avec ses intitulés, mais c'est celle qui a permis les arrêts de l'amiante en 2002. Et donc, en termes de résultats et pas que de moyens. Donc, un salarié fatigué qui présente un tableau de burn-out, qui peut-être tout à fait diagnostiqué par des bilans neuropsychologiques faits dans les CHU par les neuropsychologues, qui coûtent 40 euros, donc qui sont d'un abord très raisonnable, diagnostiquer un burn-out est à renvoyer à la responsabilité de l'entreprise, car même si le salarié présente une pathologie qui est liée à sa personnalité, s'il décompense dans une organisation du travail pathogène, le chef d'entreprise est responsable. Et je crains que nos chefs d'entreprise ne connaissent pas suffisamment cette loi.
Stéphanie nous dit ceci, est-ce que le fait d'être toujours connecté aujourd'hui à l'entreprise a accéléré ce phénomène? Les salariés n'ont plus la possibilité de se couper de l'entreprise, même le week-end, ils ont l'obligation de traiter les mails, les messages. Les jeunes toujours connectés sont-ils mieux armés que leurs aînés ? Pascal Chabot.
Par rapport à la question des générations, il y a quelque chose tout de même d'assez générationnel dans ce trouble, oui. Et la présence, l'omniprésence du média, l'omniprésence de la relation et de l'information et de la communication est évidemment un facteur tout à fait aggravant, puisque on ne peut pas décrocher, on ne peut plus justement retrouver ce temps de conscience, cette liberté psychique qui est la ressource ultime de l'individu. C'est se retrouver avec soi-même, c'est-à-dire reposer le mental, mais pas reposer le mental pour aller dans la fainéantise, reposer le mental pour aller dans la contemplation, dans l'oisiveté, reposer le mental pour aller vers l'autre aussi. Et bien entendu, quelqu'un qui est au BlackBerry 45 minutes par heure et s'adapte et répond, mais il lutte n'utilise qu'un type de capacité cognitive qui est la plus réactive peut-être, la plus efficace sans doute, mais pas la plus épanouissante.
Marie Pesé, Erwan nous dit ceci et surtout se demande comment organiser l'après-burnout. Que faire lorsque l'idée même du retour sur son lieu de travail est douloureuse après l'arrêt de travail indispensable pour retrouver une certaine sérénité? Que faire professionnellement?
Il faut savoir que ces arrêts de travail sont très longs, entre 6 mois et 1 an. Hein.
Donc c'est d'autant plus difficile de revenir au travail. Oui.
Et que donc il faut être accompagné vraiment par des gens dont c'est le métier, qui connaissent les pathologies du travail. C'est souvent le moment de faire un bilan de compétences, de remanier ses investissements au travail et puis dans d'autres domaines, de se repositionner. Et de toute façon, il faut être accompagné tout le temps du retour sur un nouveau poste. Mais il faut aussi éviter ce vertige de l'envie de la démission ou de quitter l'entreprise, car l'entreprise doit au salarié qui a décompensé un burn-out cette réinsertion, ce travail sur soi, ce retour sur un poste adapté. Donc il est important que les acteurs de prise en charge dans et hors de l'entreprise accompagnent le parcours du salarié en burn-out.
Pascal Chabot, pour terminer, les conseils du philosophe aussi pour cette phase du syndrome, le retour au travail.
Les conseils du philosophe sont évidemment toujours les plus généraux, mais je pense que la catégorie de l'équilibre, qui est une catégorie qui est peu présente dans notre civilisation, est une catégorie qui fait surface lors de ces moments-là. Et puis aussi, finalement, une certaine acceptation de sa fragilité, puisque la fragilité est finalement aussi ce qui fait l'humain, et que parfois dans des contextes que ce soit des contextes inutilement virils ou bien que ce soit des contextes qui finalement ne tablent que sur l'efficacité, cette fragilité qui est tout à fait remarquable peut être acceptée pour simplement alors donner lieu à un changement et donner lieu à une nouvelle acceptation de soi, parce que c'est pas ce n'est pas déchoir que de tomber pour parfois mieux se relever.
Il y a cette idée de métamorphose que vous abordez.
Elle est centrale.
Merci infiniment à tous les deux. Je renvoie donc vers ces deux ouvrages, Global Burnout aux éditions aux Presses universitaires de France, que vous signez Pascal Chabot, et puis Marie Peset, Travailler à armes égales, souffrance au travail, comment réagir aux éditions Pearson, et puis le site internet Souffrance et travail en lien sur la tête au carré. Merci beaucoup aux auditeurs pour les nombreux messages. Vous pouvez poursuivre le dialogue avec les commentaires en ce moment même et vous répondre sur le site de la tête au carré. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Comme tous les mardis, voici la science infuse, celle d'Anne-Cécile Perrin.
La science infuse
sur France Inter. Bonjour à tous. Si vous trouvez que ça gravite pas mal à Paris, alors laissez-moi vous embarquer vers des sphères bien plus hautes, celles de l'astrophysique. Et pour éviter de perdre pied, c'est à Jean-Pierre Luminet que j'ai demandé de nous résumer la gravitation en moins de 2 minutes. Mais auparavant, interrogeons la rue.
Ce principe de la pomme qui tombe par terre.
J'aurais tendance à dire que c'est de la physique, mais après, je ne pourrais pas forcément définir la chose.
Oui, on subit la loi de la pesanteur, c'est une loi universelle.
La gravitation, c'est très importante dans cette planète parce que sinon, tous les deux, qu'elle va tomber sur nous.
Comme un aimant.
La propriété qu'ont les objets de tomber sur notre sol à nous.
C'est la gravitation, l'attraction des planètes entre elles, de la Terre.
Ce qui nous permet de garder les pieds collés au sol.
Comme ça, on s'envole pas.
Alors, monsieur Luminet, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Je suis agréablement surpris parce que, effectivement, pesanteur, attraction sont des notions de base de la gravitation. Ça me rassure sur le niveau de culture scientifique.
C'est à vous, la gravitation, monsieur Luminet, en moins de 2 minutes. C'est parti.
Alors, très généralement, la gravitation, c'est ce phénomène d'interaction physique entre les corps massifs qui ont tendance donc à s'attirer. Alors, elle se manifeste à plusieurs échelles. Par exemple, à l'échelle de la Terre, c'est en effet ce qu'on appelle la pesanteur, c'est-à-dire cette force qui nous retient au sol parce que notre masse est attirée par l'énorme masse de la Terre et donc on a les pieds collés au sol, ou on tombe évidemment s'il y a un précipice. Mais ça, c'est la gravitation extrêmement locale. À une échelle un peu plus vaste, par exemple, la gravitation est responsable des marées, puisque c'est la gravitation de la Lune sur les océans de la Terre qui provoque les marées. La gravitation est responsable évidemment du mouvement des planètes autour du Soleil et très généralement, en fait, de toute l'organisation de l'univers à grande échelle. Les étoiles qui tournent dans les galaxies qui se déplacent dans leurs amas, les trous noirs et même le Big Bang, c'est-à-dire l'univers d'expansion, tout cela, ça s'explique par la gravitation. Il a été quand même très difficile de comprendre la gravitation, puisque par exemple, Aristote n'avait pas compris grand-chose à la gravitation. Il pensait que plus son corps était lourd, plus il tombait vite. Il a fallu attendre Galilée pour comprendre que c'était en fait la résistance de l'air qui donnait cette illusion, mais que tous les corps tombent à la même vitesse, expérience qui a d'ailleurs été réalisée sur la Lune lors d'une mission Apollo, où un marteau et une plume lâchés au même instant sont arrivés au même instant sur le sol. Après, il y a eu le grand Newton, qui a réussi à mathématiser la loi de gravitation, la force d'attraction universelle qu'on apprend tous à l'école. Et maintenant, on en est à Einstein, la relativité générale, qui est allé bien au-delà de Newton. Il nous explique que la gravitation, c'est une courbure de l'espace et du temps. Et à partir de là, on comprend les trous noirs, le Big Bang et toutes les merveilleuses choses de l'univers.
1h57, parfait.
Madame, dîner ce soir,
plus rien à raconter ?
Bienvenue sur France Inter. Si vous nous rejoignez, bon réveil. Il est tout juste 7h.
7h du matin, l'heure du petit déjeuner. Vous sirotez paisiblement votre café lorsque votre mari sort de la salle de bain, affolé.
Oh mon Dieu, je ressemble à un gros loukoum, j'ai encore pris du poids.
Viens un peu là et fais-toi une tartine, on va parler gravitation.
Bon, d'accord, mais sans beurre.
Il ne s'agit pas de ton poids, Alfred, mais de ta masse.
Ah oui ?
La masse mesure la quantité de matière d'un objet. Tiens, par exemple cette pomme. Elle se mesure en kilogrammes et elle sera la même quel que soit l'endroit où cette pomme se trouve dans l'univers.
Oui, mais mon poids alors ?
Eh bien, le poids mesure l'intensité de la gravitation d'un astre. Par exemple, la Terre sur cette pomme. Eh bien, l'unité, c'est le newton.
Mais quel est le rapport avec la gravitation ?
Le poids varie avec la gravitation. Plus elle est grande, plus le poids est élevé. Sur la Terre, t'as une masse, disons, de...
70 kilos.
Voilà, soit un poids de 688 newtons. Alors que sur la Lune, ton poids serait de 112 newtons, soit 6 fois moins. Car la gravitation de la Lune est bien plus faible que celle de la Terre.
Donc en gros, il ne me reste plus qu'à aller sur la Lune, quoi.
Ou à manger des pommes, n'est-ce pas Jean-Pierre Luminet ?
C'est profond que le symbole de la gravitation soit celui de la pomme. Parce que la pomme, c'est aussi la pomme de la connaissance. Ça nous fait remonter au péché originel. Et effectivement, la gravitation, c'est l'une des choses qui a le plus interpellé l'esprit des philosophes et des savants. Et je crois qu'elle est au cœur de la connaissance de la physique, comme la pomme est au début de toute connaissance. Après, il faut la croquer.
Je suis épaté.
Et la science infuse sur franceinter.fr.
I drink to remember, I smoke to forget. Some things to be proud of, some stuff to regret. Gone down some dark alleys in my own head. Something's changing, changing, changing. I go back to Clifton to see my old friends. The best people I could ever have met. Skin up a fat one, hide from the feds. And something's changing, changing, changing. So I kiss goodbye to every little ounce of pain. Light a cigarette and wish the world away. I got out, I'm alive and I'm here to stay. So I hold two fingers up to yesterday. Light a cigarette and smoke it all.
Fingers avec Jack Bug sur France Inter.
La tête au carré. La tête.
L'actualité.
L'actualité des sciences sur France Inter.
Avec Sophie Bécherel et Giovanni Occhipinti, bonjour à tous les deux.
Bonjour Mathieu.
Giovanni, vous nous parlez d'un astéroïde encore qui s'approche de la Terre.
Eh ben oui, pendant qu'on termine l'émission, il y a justement un astéroïde avec un nom anonyme qui n'arrête pas d'avancer en direction de notre planète. Son nom c'est 2012 D. 14. Je vais vous le présenter car il fait la une des infos spatiales, car il a été découvert à peine il y a un an, le 23 février 2012. Il a été observé pour la première fois à l'Observatoire astronomique de Majorque en Espagne. Donc il a un diamètre d'environ 44 mètres, il pèse 120 1000 tonnes, ouais. Imaginez. Et depuis un mois, on l'observe avec attention, car d'ici 10 jours, exactement le 15 février 2012, il passera à seulement 27 000 km de la Terre.
2013.
Et il passera seulement à 27 000 km de la Terre. Mais imaginez qu'un satellite GPS, lui, vole à 20 000 km de la Terre. Donc, en fait, c'est jamais un astéroïde s'était approché autant de notre planète. Pour vous donner une idée, si vous considérez que votre tête soit la Terre, ça suffit de mesurer les diamètres avec vos mains, les doubler, et voilà plus ou moins la distance en proportion. Donc,
C'est pas mal, ça, comme image. Bravo.
Ouais, effectivement, ça donne tout de suite une idée, et ça donne une idée de rapprochement. En tout cas, la communauté scientifique semble rassurante. Les chances d'impact semblent extrêmement faibles.
Oui.
Mais en même temps, on l'observe seulement depuis un mois et on s'est dit que peut-être il pourrait y avoir quelques erreurs.
Une déviation de calcul.
Voilà, et qu'effectivement.
Une erreur de calcul.
Bon, selon les scientifiques, si on s'est trompé, il passera un petit peu plus loin, pas plus proche. Donc il n'y aura, aura pas de souci. Mais en tout cas, vous pouvez les suivre. Par vous-même.
En direct, quasiment.
Oui, en direct, car semblerait qu'on pourrait l'observer avec, pas à l'œil nu, mais avec des petites jumelles ou avec un petit télescope. Donc voilà, rendez-vous le 15 février pour la vérification expérimentale des calculs des scientifiques.
Pour observer 2012, blablabla, hein, son nom.
Oui, 2012, voilà. DA14.
Tout ça ne perturbe pas Sophie, qui, elle, a envie de nous parler de la fertilité masculine.
Mais oui, c'est une information qui vient s'ajouter à une récente étude de l'INVS, l'Institut français de veille sanitaire, qui s'alarmait en décembre dernier sur la baisse de fertilité des hommes, la baisse de qualité du sperme, moins 32% en 17 ans. Pendant cette période, on nous avait expliqué qu'on était passé de 73 millions de spermatozoïdes dans 1 millilitre de sperme à 50 millions. Vous voyez, en 17 ans, c'est énorme.
Oui.
Bon, le seuil jugé préoccupant est à 15 millions. Hein. Mais la question reste posée, pour quelles raisons il y a cette baisse?
C'est multifactoriel, Sophie.
Ah, sauf que voilà, cette nouvelle étude-là qui vient de nous être présentée est assez intéressante parce que figurez-vous qu'elle pointe du doigt la télévision.
Allons bon.
Le nombre d'heures passées devant la télévision. L'étude a porté sur 190 hommes jeunes, 18-22 ans. Eh bien, ceux qui regardent la télévision plus de 20 heures par semaine ont une concentration de spermatozoïdes de 44% inférieur au groupe qui la regarde le moins. C'est énorme.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, ça veut dire, vous voyez, rester assis, c'est pas très très bon pour vous.
Mais c'est
à l'inverse.
Mais c'est que la télévision, c'est pas l'ordinateur.
Ah, ça va.
Rassurez-moi.
Oui, à mon avis, c'est à peu près la même chose. Ça mériterait d'être vérifié. En tout cas, les hommes qui font du sport, hein, plus de 15 heures par semaine, bah, ceux-là, évidemment, ils ont
plus
des
spermatozoïdes
en forme. Mais oui, 73% de plus.
Bon,
dans les deux cas, on est bien au-dessus quand même, hein, de ce fameux seuil des 15 millions, en deçà duquel il y a un problème pour la fertilité. Et l'étude ne dit pas si tel type ou tel autre de pratique sportive impacte, hein, sur la qualité de ces spermatozoïdes. Donc, les chercheurs devraient poursuivre leur travail. En tout cas, en France, on n'a pas à être fiers parce que vous, messieurs, vous passez 24 heures et 50 minutes moyenne chaque semaine devant la télé.
Moi, je suis italien.
Lâchez la zapette. Ah, je chercherai.
Et
pour
vous faites
italiens.
Du sport, vous, Giovanni?
Bien sûr.
Ah, sur votre vélo, oui, peut-être, de temps en temps. Moi, je vous parle d'une première en Europe. Ça s'est déroulé au CHU de Rennes le 21 janvier dernier dans le service d'urologie du CHU qui a pratiqué l'ablation d'un rein sur une patiente souffrant d'un cancer en retirant le rein par le nombril en une seule incision et à l'aide d'un robot. Il a fallu 3 heures, une seule incision donc. Le rein a été retiré par le petit orifice de 2 cm qui a servi à introduire les pinces du robot. Et pour la patiente, évidemment, les avantages de ce mode opératoire sont importants puisque d'abord la douleur est réduite et le résultat esthétique optimal. Le CHU de Rennes indique qu'elle a pu retourner chez elle 3 jours après l'intervention et qu'elle se porte très bien aujourd'hui. Voilà, c'est une première européenne. Des nouvelles de Néandertal, Giovanni?
Bah oui, les mésaventures de Néandertal continuent car vous vous rappelez qu'on avait dit qu'on remettait à jour la pendule de carbone 14. Eh bien, grâce à ces nouvelles datations, ces nouvelles méthodes qu'on a développées, on peut faire des nouvelles datations des sites archéologiques européens et qui montrent donc que Sapiens semblerait qu'elle soit arrivée plus tôt que prévu, c'est-à-dire il est arrivé à la place d'il y a 40 000 ans, un petit peu plus tôt, donc environ 10 000 ans plus tôt. Mm-hmm. Cela fait donc penser que les objets décorés avec des perles et des coquillages qu'au début on avait attribués à Néandertal, en fait, non, ils font partie de la production de Sapiens.
Ah, c'est ça, d'accord.
Donc cela signifie que Néandertal perd ses capacités poétiques et donc qui révèle une sorte de pensée symbolique. Donc le pauvre, il est retourné à son état animal de bête sauvage,
incapable
de penser.
On va prendre des précautions, hein, parce que...
À mon avis, ça n'est pas tranché encore.
Oui, j'imagine.
Mais évidemment,
surtout
oui.
qu'il a fallu de longues années de réhabilitation pour Néandertal, donc exactement. Vous n'allez pas saper tout le boulot comme ça en une petite brève scientifique.
Effectivement, il semblerait que Néandertal se soit réfugié en Espagne, mais qu'il y a encore des doutes là-dessus, car les données ne sont pas encore claires, donc elles sont très contestées. Donc voilà, on
comme
a
toujours,
encore...
finalement.
Voilà, effectivement, la telenovelas de Néandertal est continue.
Oui,
on
vrai.
Va attendre encore les nouveaux épisodes.
Bon, c'est une publication Nature, hein, je
oui,
crois.
Oui, effectivement, ouais.
Sophie, vous avez des nouvelles d'insectes
hein. Mais oui, parce que Giovanni et vous, Mathieu, quand vous étiez petits, hein, à 6 ans, vous avez bien dû regarder de très près comment font les mouches, les sauterelles, les fourmis.
Ah oui, on leur a même arraché
avec...
les ailes.
Ah, les antennes, non? Eh bien, voilà, c'est une étude qui porte sur l'utilisation et le nettoyage, surtout des antennes par ces insectes.
Ah.
Les antennes, elles leur servent à percevoir les odeurs, les goûts, parfois à mesurer la température et puis à se repérer spatialement. Et là, les scientifiques ont voulu savoir pourquoi ces insectes se lavaient, se nettoyaient les antennes.
Ah oui.
Et ce qu'il y avait, en fait, qui se collait, qu'elles crassent, qu'elles dépôt, les petites bêtes cherchaient à ôter. Eh bien, en fait, ce qui s'accumule, ce qui a d'ailleurs un aspect assez brillant, c'est une cire, quelque chose de gras, hein, des lipides cuticulaires. Et au microscope électronique, ce qu'ont vu les scientifiques, ben, c'est donc ces dépôts, quatre fois plus importants sur une antenne sale que sur une antenne propre.
Mm-hmm.
Et en fait, ils ont repéré que chaque espèce d'insecte a une technique pour se nettoyer les antennes.
Les orteils.
Pas les orteils, les antennes. Et notamment les blattes, figurez-vous, qu'elles utilisent leurs petites pattes pour se les passer à travers de la bouche, comme ça.
C'est tandis comme un fil dentaire, un peu,
un
non
peu.
C'est horrible, tandis, genre, quel cauchemar.
Tandis que la fourmi charpentière, elle n'utilise que ses pattes, hein, pour lisser ses antennes. Donc voilà, vous voyez, il y a le nettoyage buccal, le nettoyage avec les mains, mais en tout cas, c'est pour enlever ce dépôt et donc pour améliorer l'odorat, parce que ça sert notamment à sentir les phéromones.
Bon, moi j'ai une histoire de dépôt, mais qui est beaucoup moins drôle. C'est la côte sud de l'Angleterre qui est frappée depuis plusieurs jours par une pollution qui n'avait jusqu'alors jamais été répertoriée. Des centaines d'oiseaux marins, pour la plupart des guillemots de Troil, ont été retrouvés enduits d'une substance le long des plages situées dans le sud de l'Angleterre. Le produit a littéralement englué et astreint au sol ces espèces voyageuses. Certains oiseaux ont été retrouvés morts et on pense que c'est le déversement d'un cargo, probablement.
C'est une cuve,
voilà,
c'est
sûrement.
Un nettoyage sauvage.
Mais le bateau n'a pas été localisé. Pour l'instant, ça fait beaucoup de dégâts donc, auprès de la faune sauvage. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci
Sophie et Giovanni, bonne semaine. À mardi prochain. Oh. Merci à vous, Pauline Laverdure et Julien Chabassu, qui étaient à la technique. Dans un instant, Daniel Mermet sur France Inter. Il est 15h.